Tribu, Catherine Erard.
Le premier ministre anglais, Winston Churchill, aurait dit que l'extérieur du cheval exerçait une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme. Et de fait, la conquête la plus noble de l'homme a consolé bien des cavaliers et cavalières depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est même devenu une thérapie reconnue. Le cheval, cet animal fort, puissant et hypersensible. Avec lui, impossible de tricher. Vous avez peur et vous le cachez, il le sent. Vous ne savez pas vous imposer, il en profite. Vous êtes trop autoritaire, il n'en fait qu'à sa tête. Et si la vie a été un peu trop dure avec vous, quoi de mieux que de se laisser porter par cette grosse bête douce, de se laisser balancer sur son dos au rythme de ses pas, comme un bercement qui console. Pour réparer les blessures du corps et de l'esprit, la thérapie avec le cheval fait de plus en plus d'adeptes en Suisse. Des études se multiplient pour démontrer les bienfaits de la zoothérapie, du type le ronronnement du chat qui abaisse le stress chez l'humain. Derrière ces évolutions, c'est tout notre rapport aux animaux qui change. Ils deviennent des co-thérapeutes. Co-thérapeutes car ils ne sont pas seuls avec le patient, c'est une thérapie à trois, avec un thérapeute bien humain, et j'ai le plaisir d'en accueillir une ce matin dans Tribu. Sybille Grabert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière et thérapeute avec le cheval. Alors, lorsque l'on fait une séance avec vous, est-ce qu'on est forcément obligé de monter à cheval? Parce que ça fait quand même un peu peur, c'est haut un cheval.
Tout à fait. Alors non, ce n'est pas du tout une obligation, c'est plutôt une option. On peut travailler vraiment de différentes façons, notamment à travers l'observation. C'est très intéressant pour le thérapeute et pour le patient parce qu'il va projeter son monde au fait sur ce qu'il observe, et on peut questionner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il observe dans les interactions. Et ça lui permet aussi de faire des liens avec son propre mode d'interaction.
Les interactions entre les chevaux.
Entre les chevaux, tout à fait. Ouais, et ouais. Ça permet de transposer aussi la réflexion sur ses propres interactions. Comment est-ce qu'on est vis-à-vis de l'autre? Comment on se positionne? J'ai un exemple d'une patiente, par exemple, qui observait un troupeau une fois et qui trouvait que il y avait un âne dans ce troupeau, en fait. Et puis, elle estimait que cet âne était maltraité par les autres chevaux. Enfin, il y avait toute une projection, en fait, sur cet âne. Et finalement, en discutant avec elle, après, j'ai pu comprendre que cet âne, il représentait elle. Elle a pu, en fait, prendre conscience un peu de son sentiment de rejet qu'elle pouvait ressentir dans sa relation avec les autres. Donc, c'est intéressant, en fait. Ça donne une image un peu de soi avec l'autre.
J'ai vu aussi que vous proposiez parfois un travail qui ne doit pas être simple, un travail un peu sur l'affirmation de soi, où on doit arriver à faire bouger le cheval sans être sur son dos, hein, d'un point A à un point B. Donc il faut avoir de l'autorité. Ça par exemple, ça doit travailler beaucoup de choses pour la personne qui fait cet exercice.
Tout à fait. Donc d'être en contact avec le cheval demande, enfin le cheval il demande qu'à suivre, mais pour pouvoir suivre, il faut que la personne soit fiable et que la personne puisse poser ses limites, au fait. Donc c'est intéressant parce que plus elle va pouvoir poser ses limites, plus elle va pouvoir délimiter son propre espace, plus le cheval va se sentir rassuré et plus elle va pouvoir se positionner en tant que leader, au fait. Et le cheval, c'est un animal qui est plutôt sensorimoteur, donc il réagit par la sensation et au geste. Donc il a un langage plutôt non-verbal et il va capter plutôt tout ce qui est non-verbal. Donc en fait, dans la façon dont on va mobiliser notre corps et puis dans quelle intention on va être et comment on va gérer notre émotion va influencer sur le langage qu'on va pouvoir avoir avec lui. Donc ça demande justement un travail déjà de savoir où on va, donc d'avoir un objectif, de se fixer un objectif, d'avoir la gestuelle qui suit, donc d'être persuadé qu'on veut atteindre cet objectif, et puis après de gérer l'aspect émotionnel aussi. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je respire? Comment est-ce que je
peux pas mentir, c'est ça?
Je peux pas mentir, non.
Le cheval, il va tout de suite le sentir, c'est ça?
Il perçoit la moindre chose, c'est un animal de proie, donc il est hypersensible à son environnement. En fait, il a appris à détecter les émotions de l'autre pour pouvoir se protéger, au fait. Donc, il va être très, très miroir de ce qui se passe chez l'autre. Et ça se passe aussi avec l'homme.
Sybille Grabert, l'équithérapie, ça s'adresse à quel type de patient?
Alors, les indications sont extrêmement larges. Ça peut être des troubles psychiques, mais aussi sociaux, comportementaux, un besoin de prendre la distance par rapport à une situation... des traumas, ça peut être aussi avec des enfants avec des problèmes d'apprentissage, des problèmes dys. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment très très large. En fait, ça s'adresse à une très large population. Après, on pourrait peut-être plus parler des contre-indications. En fait, la seule contre-indication, finalement, c'est les allergies au cheval. Et puis, voilà, les grosses. Peut-être les grosses décompensations psychiques en phase aiguë, peut-être c'est pas le bon moment, mais disons qu'il y a très très peu de contre-indications et énormément d'indications, et vraiment c'est une pratique qui peut s'appliquer à plein de situations.
Vous-même, vous travaillez avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction.
Entre autres, oui, tout à fait.
Comment est-ce que ça peut les aider ?
Alors c'est assez intéressant parce que le cheval c'est un être vivant, enfin le contexte dans lequel on travaille est très sensoriel et ça ramène la personne en fait à des aspects de base, à une temporalité, aux saisons, à la nature, au vivant. Donc il y a déjà cet ancrage qui peut se faire. Et puis c'est aussi assez intéressant au niveau du corps parce que souvent les personnes qui ont des problèmes d'addiction, et ben elles ont plus tellement de contact avec leur corps vu qu'il est anesthésié permanence, tout à fait. Donc c'est reprendre un peu contact avec ses sensations, avec ses émotions, apprendre à les gérer d'une autre façon qu'en consommant ou en ayant des habitudes néfastes. C'est aussi intéressant parce que la personne doit faire de son corps un allié au fait pour la communication avec le cheval. Donc c'est utiliser le corps, enfin se réapproprier son corps et l'utiliser de façon positive, on va dire, dans la relation avec le cheval.
Oui, on n'est plus dans le ressenti, dans le discours. Là, faut vraiment ressentir le corps, ressentir le cheval, et en ce sens-là, c'est ça qui permet de renouer un petit peu plus avec tout son être.
Tout à fait. Le cheval est complètement dans le moment présent. Lui, il va pas anticiper. Il est vraiment dans le moment présent. Donc, ça demande aussi d'être soi-même présent et d'être là, au fait, finalement. Sinon, la connexion ne se fait pas, au fait.
On imagine que des fois ça doit pas forcément bien se passer. On a tous des récits de personnes qui sont tombées de chevaux, qui se sont fait mal, etc. Comment vous gérez une séance où on veut faire quelque chose et puis le cheval veut pas, ça va pas? Vous en faites quelque chose de ça?
Tout à fait. Alors ça fait justement partie de. En fait, le thérapeute avec le cheval, il travaille avec le vivant, donc il va essayer de rebondir et de questionner tout ce qui se passe dans la séance sur le moment présent. Et puis, alors, bien sûr que les règles de sécurité, sont respectées au maximum, mais on travaille quand même avec des êtres vivants, donc il peut se passer des choses qu'on n'a pas prévues. Il y a les saisons qui font, il y a du vent, les chevaux sont plus agités, enfin voilà, il faut gérer tout plein de paramètres, et finalement, ça fait aussi partie de ce qu'on peut travailler avec les patients. Pourquoi est-ce que quand on a une intuition, un feeling, enfin, on se sent pas bien, on va peut-être réfléchir d'abord au pourquoi du comment et on va peut-être pas monter tout de suite, on va peut-être prendre le temps de travailler sur ce qui est en train de nous habiter. Enfin, voilà, il y a tout un travail, au fait, avant, après. Et puis, c'est aussi assez intéressant au niveau de la frustration parce que finalement, le cheval, ça demande vraiment, c'est un travail sur soi, au fait, de rentrer en lien avec un cheval. Et c'est des étapes. Et c'est pas tout de suite, et ça demande vraiment une certaine temporalité et de gérer la frustration de ne pas pouvoir réussir tout de suite ce qu'on a envie, quoi. Donc c'est tout ce travail, au fait, qui est hyper intéressant, notamment dans les addictions aussi, où finalement il y a peut-être une certaine habitude chez certaines personnes de gérer, dès qu'il y a quelque chose qui joue pas, on anesthésie,
on fuit.
Et là, en fait, faut travailler par étapes et c'est vraiment. Ça prend du temps et ça demande du travail, au fait. Et ça, c'est intéressant. Et tout est vraiment, tout est matière à travailler dans la séance de thérapie, quoi, à tout moment.
Mmh. Je lisais, par exemple, qu'une de vos collègues qui travaille en milieu carcéral, avec parfois des gens qui sont assez violents dans leur relation, elle les faisait travailler avec des étalons.
Oui.
Parce que là, ça marche plus vraiment, quoi. C'est intéressant.
Tout à fait. Alors, ça demande vraiment une affirmation de soi et puis une régulation de la colère, au fait, finalement, qui est assez intéressante. Moi, j'ai une expérience comme ça avec un patient qui avait vraiment des gros troubles au niveau de l'agressivité, au fait. C'est un patient qui a l'habitude de taper, au fait, dans le milieu professionnel et dans sa vie sociale. Et au fait, il voyait pas venir le moment où il allait.
La colère allait rentrer.
Ouais. Et au fait, c'était hyper intéressant parce qu'à chaque fois qu'il se mettait en colère, le cheval réagissait en face de lui, commençait à gratter le sol, s'agitait et tout. Et au fait, en prenant conscience de ces aspects-là, il a pu gentiment s'approprier un peu ses propres signes précurseurs pour pouvoir anticiper un petit peu ses réactions d'agressivité et de colère.
Comme si le cheval sentait la colère monter en lui avant lui, c'est
tout
ça?
Tout à fait, voilà.
Des fois, les chevaux, ils vous donnent des indications quand vous travaillez avec des patients, ils sentent des choses que vous avez peut-être pas perçues.
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce qu'ils sont, ils sont vraiment miroirs de ce qui se passe. Alors après, on est toujours dans un triangle thérapeutique. Donc, il y a quand même le thérapeute, le patient, et il faut toujours pouvoir définir plus ou moins à qui appartient quoi. Mm-hmm. Mais, régulièrement, en tout cas, on peut observer chez les chevaux, des réactions, en fait, qui sont en lien avec ce que le patient vit. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, nommer ce que le cheval vit pour que le patient puisse s'approprier ses propres ressentis, mais de manière, détourner sans que ça soit trop frontal et trop confrontant pour la personne. Et ça, c'est aussi un des atouts, je pense, de la thérapie avec le cheval, notamment avec les enfants qui sont peut-être moins à l'aise dans un cabinet en face à face et avec qui on peut vraiment aborder les choses de manière ludique et de manière moins frontale, au fait.
Mmh. Vous me racontiez l'histoire d'un enfant qui aimait pas trop suivre les ordres et qui voulait pas attacher son cheval. Ben, voilà, il y a des conséquences, quoi.
Tout à fait. Ben, le cheval est parti et pour lui, ça a été clair.
Et il a compris.
Et il a compris. Et il a toujours après attaché son cheval et respecté les règles de sécurité. Il n'y a pas besoin de mots.
Voilà, c'est plus simple. En même temps, c'est plus amusant aussi, vous allez me dire. Est-ce qu'on peut travailler avec n'importe quel type de cheval pour ce type de travail thérapeutique? Ou on se dit peut-être que des chevaux qui ont été maltraités, il faudrait éviter? Ou comment vous choisissez un bon cheval?
Alors, il faut que ce soit un cheval qui soit assez sain dans sa tête, effectivement. Et puis surtout, je pense que vraiment la priorité, c'est qu'il faut des chevaux qui soient dans des bonnes conditions de détention, en fait. Des chevaux qui puissent pallier à leurs besoins, qui aient le mouvement, le contact social avec les autres chevaux, l'alimentation et puis les soins adaptés. Hein, du moment qu'on a déjà cette base-là, on a des chevaux qui sont plus ou moins bien dans leur tête. Après, ce qu'ils ont pu vivre, c'est vrai que ça a une influence dans le sens où un cheval qui a perdu confiance, enfin qui a été maltraité par l'homme, il aura de la peine à refaire confiance. Donc ça paraît déjà difficile de le faire fréquenter différentes personnes. Et puis il peut avoir peut-être des réactions imprévisibles et ça, ça peut être dangereux. Après, ça peut être intéressant dans ce que le patient peut projeter sur le cheval de sa propre histoire et en lien avec l'histoire du cheval, quoi. Des fois, c'est, les choix se font pas par hasard.
Voilà. Ah, vous avez l'impression que le patient choisit son cheval ou le cheval choisit le patient, je sais pas.
Peut-être un peu des deux, mais souvent, je pense que les patients choisissent les chevaux pas pour rien et souvent, il y a des similitudes dans l'histoire et c'est intéressant de pouvoir aussi les travailler.
Alors, est-ce qu'avec un cheval, parce que c'est quand même un travail qu'on lui demande, est-ce qu'il peut faire ça de longues heures? Est-ce qu'il y a une durée déterminée? Enfin, est-ce que ça le fatigue, ces séances?
Alors, je pense que ça le fatigue émotionnellement. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur les conditions de détention où il doit pouvoir dégager un peu toutes ces tensions internes qu'il a, parce qu'il se contient quand même beaucoup pendant une séance. Voilà, et c'est un cheval à qui on demande d'être présent, d'être là. Enfin, donc voilà, c'est son moment où il peut être attentif, il est quand même assez limité. Et puis après, il faut vraiment qu'il puisse, entre les séances aussi, se défouler, enfin, retourner avec son groupe, manger, enfin, pallier à ses besoins.
Je vous propose, Sylvie Grabert, de nous aussi prendre une petite détente avec un grand classique. Je suis sûre que vous aimez bien ce titre.
Part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, because
desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Déjà, mais toujours autant de plaisir à l'écouter. C'était America avec A Horse With No Name dans cette émission Tribu où l'on s'intéresse à la thérapie avec le cheval en votre compagnie, Sybille Graber. Depuis quand est-ce qu'on travaille dans un but thérapeutique avec les chevaux?
Alors déjà, l'Antiquité, au fait, 5e siècle avant Jésus-Christ, Xénophon parlait déjà du cheval qui était non seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit et le cœur. Et puis après, il y a eu des traités aussi qui sont sortis sur ce sujet au 19e siècle. En 1950, c'est une cavalière danoise qui a surmonté sa poliomyélite, ouais, grâce à la pratique de l'équitation et qui a obtenu au fait une médaille aux JO. Et à partir de là, au fait, on est parti sur l'équitation adaptée et ses bienfaits. Et petit à petit, ça s'est développé en Europe, au Canada, jusqu'à ce qu'en Suisse, au fait, en 1990, la première formation qui durait 2 ans à l'époque soit mise en place.
Ça veut dire qu'il y a des études qui deviennent de plus en plus importantes sur ces bienfaits du travail avec des animaux. Bon, là, en l'occurrence, le cheval.
Alors, de manière générale, la zoothérapie est de plus en plus étudiée, comme vous disiez en introduction, par rapport au bienfait du contact avec l'animal. Après, des études concrètes, je peux pas en citer comme ça.
Pas tant que ça, finalement.
Non, c'est plutôt empirique.
Est-ce que, donc, cette formation existe depuis 1990 en Suisse, elle est reconnue, elle est remboursée par les caisses maladies, on en est où?
Alors, actuellement, elle est reconnue par une partie des caisses maladies, mais via les assurances complémentaires.
D'accord. Voilà. Et c'est une profession qui est protégée. On doit suivre un certain cursus pour pouvoir se dire équithérapeute ou avoir ce titre-là.
Alors, le titre de thérapeute avec le cheval, ASTAC, est protégé.
ASTAC, ça veut dire quoi?
C'est l'Association Suisse de Thérapie avec le Cheval.
D'accord.
Okay. Et puis, la formation nécessite d'avoir... donc, c'est une formation de 3 ans qui se fait dans une haute école. C'est un Diplôme of Advanced Studies. Et elle se fait à l'école, donc à Lausanne, l'école sociale de Lausanne et l'école de Fribourg. Donc, dans ces 2 endroits. Et c'est ça qui fait que ça valide, au fait, la qualité, entre guillemets, du thérapeute, au fait.
Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de psychologues vous envoient des patients? Que c'est de plus en plus connu?
Oui. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante, notamment, surtout avec des pédopsychiatres pour qui la prise en charge de l'enfant dans un cabinet en frontal, c'est parfois compliqué. Et puis d'autres approches sont peut-être plus adaptées par rapport à certaines situations, ou permettent en tout cas d'avancer dans des situations qui sont un petit peu bloquées en fait.
C'est ça, qu'on a un patient qui a du mal à parler, ça peut être quelque chose d'un peu plus simple, d'avoir un contact avec le cheval, de faire quelque chose. C'est aussi tout cet aspect-là.
Tout à fait. Un autre biais, et puis vraiment le contact avec, passer par le corps pour gentiment arriver à l'esprit.
Vous me disiez aussi que ce travail avec les chevaux, ça travaille aussi tout sur nos problèmes d'attachement.
Oui, tout à fait. Oui, créer une relation avec un cheval, enfin revivre aussi des situations de ce qu'on a pu vivre dans les premières années de notre vie. On peut revivre à cheval aussi un peu le holding maternel, le fait d'être porté, d'être avec la chaleur, l'odeur. Enfin voilà, ça peut faire revivre un peu des sensations très archaïques.
Et est-ce que tout ce travail y rejoint aussi peut-être un courant beaucoup plus large qu'on vit dans notre société aujourd'hui, tout ce courant de retour à la nature? On nous dit d'aller se promener dans la forêt, que ça nous fait du bien. Il y a tout ce trend-là dans lequel vous êtes.
Oui, tout à fait. J'ai l'impression que les gens ont besoin maintenant de retourner à des choses plus élémentaires, plus basiques, plus vraies au fait finalement. Je pense que ça fait aussi partie un peu du mouvement... De société.
Comme s'il fallait un peu... on parlait beaucoup là tout à l'heure de retrouver le contact avec le corps, mais c'est un peu cet aspect-là, quoi. Sortir du cérébral, du mental, c'est un peu tout ça derrière.
Tout à fait, reconnecter le tout, en fait, la tête avec le corps, quoi. Dans une prise en charge un peu plus holistique, dans une approche qui prend en compte toute la complexité de l'être, j'ai envie de dire.
Est-ce que vous travaillez depuis longtemps avec un cheval particulier?
Alors, je travaille en thérapie avec le cheval depuis 6 ans. Et puis, j'ai commencé à travailler avec mon cheval.
Votre cheval,
voilà,
d'accord. Et vous avez un lien particulier avec lui? Ça marche particulièrement bien? Ou comment vous vivez ça? Parce que c'est votre co-thérapeute, hein, c'est ça le terme, hein, c'est ça?
Tout
c'est
à
fort,
fait.
Quand même, ouais.
C'est mon co-thérapeute. C'est mon ami, mon co-thérapeute. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment une relation qui doit déjà être là, en fait, être présente, parce que le cheval aussi se réfère à la personne quand il est en thérapie. Donc le thérapeute doit laisser suffisamment de place pour qu'il se passe quelque chose avec le patient, mais en même temps il doit aussi être là pour le cheval, et il doit être le cadre rassurant qui assure.
Quelque part, vous êtes aussi là pour dire au cheval ça va bien, je suis là, tu peux y aller.
Et tout ça, ça nécessite du travail, quel que soit le cheval avec lequel on travaille, ça nécessite de passer du temps avec lui, de le désensibiliser aussi à certaines choses. Par exemple, on a des enfants qui tout d'un coup, hop, ils décident de passer sous le cheval. Il faut que le cheval soit habitué à ce genre de choses. Donc c'est tout un travail en amont et permanent en fait de relation avec le cheval. Et ce que je voulais redire aussi par rapport à l'état physique et mental du cheval, ce qui est important, c'est qu'il ne fasse pas que de la thérapie non plus, et qu'il puisse avoir d'autres activités qui lui permettent de se changer les idées et d'être aussi dans une autre...
Le risque, ça serait qu'on passe du cheval outil de production à un cheval thérapeute, mais on l'utilise tout le temps sans vraiment se poser la question de lui, comment il vit ça. C'est un peu ça.
Tout à fait, oui. Ouais. Donc c'est vraiment important dans la relation que le cavalier ou le propriétaire, on va dire, passe aussi d'autres moments avec le cheval que de thérapie. En fait, ça lui permet aussi de rester sain et bien dans sa tête. Et puis, ça permet de préserver la relation aussi, et puis de continuer à apprendre à le connaître et à le découvrir.
Merci beaucoup, Sybille Grabert, de vous être déplacée en ce jour férié dans nos studios de Lausanne. Je rappelle que vous êtes infirmière et thérapeute avec le cheval, certifiée de l'Association Suisse de Thérapie avec le Cheval, donc ASTAC. Vous êtes une officielle, voilà, on peut vous faire confiance. En régie ce matin avec nous, Sophia Muller. Demain, je vous retrouve pour parler de tout autre chose, on va parler de traduction. On imagine souvent que c'est une activité qui rapproche les peuples et les cultures. Alors certes, mais c'est aussi un formidable outil de pouvoir. Et pour en parler, je recevrai Tiphaine Samoyo. Tout de suite, votre matinée se poursuit à l'écoute de la première, où nous allons nous rendre dans le Gros de Vau, plus précisément à Échallens, pour retrouver Laurence Bizan et Lydie Gotter. Mais avant ça, une info trafic.
Tribu, Catherine Erard.
Info trafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Martigny, un accident provoque toujours un bouchon entre Lutry et Montreux en direction de Martigny. En conséquence, la durée de voyage est prolongée d'environ 30 minutes. Et puis sur l'axe Genève à Aoste, on annonce 1h30 d'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc. Sur l'axe du Grand Saint-Bernard, un bouchon est signalé entre Lide et Bourg-Saint-Bernard en direction de l'Italie. Il faut prévoir 2 heures de temps supplémentaire pour parcourir ce tronçon. Enfin, sur l'axe du Gothard, on compte toujours 9 km de bouchon entre Hersfeld et l'entrée nord du tunnel en direction du Tessin, ce qui représente une attente 1h30 environ.